Quel est donc cet arbre dont parle Jésus ? Cet arbre est-il le symbole de notre vie ? Ou bien est-il l'arbre de vie lui-même, c'est-à-dire pour nous, la croix du Christ ? C'est la question que je me pose souvent au baptême des petits-enfants quand on me demande à la fin, n'hésitez pas à faire quelques pas avec elle. Au baptême des petits-enfants, quand on me demande à la fin de bénir une médaille et qui représente de plus en plus un arbre. Elle a de plus en plus de succès, un succès grandissant, et elle-même en passe certains mois, dans les baptêmes qui succèdent, de supplanter même la Vierge Marie. Et c'est ce que je me demande. Est-ce que cet arbre figure et le symbole de la vie de l'enfant, qui est appelé à grandir comme un arbre, ou est-ce que ça représente le Christ, l'arbre de vie? Je me dis, si cet arbre est le symbole de l'âme de l'enfant, de sa vie, ceux qui choisissent une telle médaille risquent de lui faire porter une responsabilité assez lourde. C'est ce que Jean-Baptiste avait annoncé en des termes très clairs. Produisez des fruits qui expriment votre conversion. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Demain dimanche, ce dimanche, le 2 octobre, c'est la fête des saints anges gardiens. Ce sont quand même des créatures plus adaptées au baptême et plus adaptées aux petits-enfants. Ce sont des modèles de protection et de bonne direction, de juste orientation. Jésus dit de ses anges qu'ils voient sans cesse la face de son Père, de mon Père qui est aux cieux. Les anges ont cette particularité qu'ils constituent chacun sa propre espèce. Il y a autant d'espèces d'anges que d'anges. Chacun constitue sa propre espèce avec une conséquence immédiate extrêmement forte, un grand avantage, c'est qu'ils ne passent pas leur temps à se regarder les uns les autres, à s'épier mutuellement. Et ils ne se regardent pas non plus le nombril. Ça, c'est le cas des anges déchus, des démons. Mais les anges regardent, contemplent sans cesse la face du Père. Et c'est la raison pour laquelle Marie est la reine des anges. Elle n'est pas là à épier les autres, ni à se regarder elle-même. C'est ce que nous avons chanté en entrée. Tournez les yeux vers le Seigneur. C'est ça notre chemin de vie. Tournez les yeux vers le Seigneur. Et je m'adresse parmi vous s'il y a de futurs parrains ou marraines de baptême. La tradition veut en effet que ce soit eux qui s'occupent de la médaille, puis de la chaîne. Choisissez, offrez de préférence, évidemment la Vierge Marie, un ange, l'ange gardien, l'archange Saint-Michel, éventuellement un saint, Saint-Joseph, ou le saint du prénom de l'enfant, mais évitez l'arbre de vie. Ou alors, demandez aux parents de prendre pour la célébration de ce baptême l'évangile qu'on vient d'entendre. Parce qu'il est construit justement sur les trois composantes du baptême. Le don de la foi, la victoire sur la mort, le service de Dieu. Voilà la réalité fondamentale du baptême. Que donne le baptême ? La foi. Que donne la foi ? La vie éternelle, la victoire sur la mort. Par le service de Dieu, par la consécration même de notre vie que signifie le baptême. Et la demande des apôtres est pleine de bon sens. Augmente en nous la foi. Augmente en nous la foi. La foi, c'est une réalité vivante. Et comme toute réalité vivante, elle grandit ou elle meurt. Il n'y a pas d'autre terme à cette alternative. Souvent, nous sommes tentés dans la vie, parce que nous pouvons avoir des moments de fatigue ou de remise en question, nous sommes tentés de dire, oh là, on va faire une pause. Il n'y a pas longtemps, il y a un entrepreneur, qui avait un créateur d'entreprise très successful, s'était développé depuis des années, et qui était venu me voir et me dire, je vais marquer une petite pause, là, je vais un peu lever le pied pour passer plus de temps en famille. Il espérait sans doute avoir ma bénédiction. Je lui ai dit, attention, vu la dynamique de son entreprise qui n'avait fait que se développer, je lui ai dit, attention, si vous arrêtez, vous vendez votre entreprise, mais si vous relâchez, ça va partir à volo. La loi de la vie est simple, qui est la loi de la foi, on grandit ou on meurt. Et de cette foi qui est reçue au baptême, le Christ en rappelle le contexte. Je disais la victoire sur la mort. La mer représente la mort. Et l'arbre de vie, la croix du Christ, c'est cette victoire sur la mort, c'est-à-dire notre plongée dans sa mort et sa résurrection. Et voyez alors comment, d'une relation de confiance, du plus petit acte de foi, aussi petit qu'une graine de moutarde, va apparaître l'obéissance stupéfiante d'un arbre qui irait de lui-même se déraciner et se planter dans la mer. La mer représente la mort. Dans l'Ancien Testament, ce sont les eaux du déluge, ce sont les eaux de la mer Rouge qui refusent les Égyptiens. Dans le Nouveau Testament, c'est également la mort, c'est le lac pris dans la tempête ou dans la nuit. La mer représente la mort, mais la mer représente également le monde. Le monde dans lequel nous vivons. Et il n'est pas sûr que cette notion que vous connaissez, vous avez probablement entendu parler, qui est très en vogue, qui est très à la mode actuellement, on parle beaucoup de société liquide. Dire maintenant, on vit dans une société liquide. Je ne suis pas sûr de la nouveauté de cette réalité. Le monde a toujours été fluctuant. Le monde a toujours été instable. C'est le propre du monde d'être prompt à nous engloutir, à nous noyer, nous le disons dans le langage courant, se noyer dans son travail, se plonger à corps perdu et même à âme perdue dans ses activités, se retrouver submergé. C'est ça la question. Qui nous empêchera de nous noyer? Qui nous sauvera de l'engloutissement? Eh bien, la réponse est donnée dans la suite de l'Évangile par cette parabole du serviteur de retour du travail des champs. Il ne prend pas de repos avant d'avoir servi son maître. C'est ce que vivent tous les parents. Tous les parents, quand, le soir, de retour du travail, ils s'occupent d'abord des enfants, ils leur font raconter leur journée, ils regardent avec eux leurs devoirs, ils les font dîner, ils leur apprennent à parler, à échanger, à communiquer. Quand nous rentrons le soir, la journée n'est pas terminée. Et c'est la base de toute relation de couple, où l'autre passe avant soi, quelle que soit la fatigue. C'est vrai des célibataires qui ont autant de proches, parents, amis ou voisins dont il faut qu'ils s'occupent. C'est vrai des personnes consacrées qui sont chargées de porter le monde et leurs frères dans la prière. Le soir venu, la journée n'est pas terminée. Et c'est ça notre prière au Seigneur. Seigneur, reste avec nous. Reste avec nous pour que nous restions fidèles à notre baptême. Le don de la foi, la victoire sur la mort, le service de Dieu. Que la Vierge Marie et notre Mère nous gardent dans cet esprit tout au long de notre vie, dans l'espérance du bonheur éternel. Le soir venu, la journée n'est pas terminée. Nous l'avons entendu en première lecture par le prophète Habacuc, repris par saint Paul dans la lettre aux Romains. Le juste vivra par sa fidélité.